RCF.
Bonjour à tous. Les modifications alimentaires que nous pouvons constater chez nos enfants et nos adolescents ne sont pas à prendre à la légère. Même le régime anodin, souvent encouragé par l'entourage, qui y voit une démarche de santé, peut se transformer en une volonté obsessionnelle de rester mince. Les restrictions alimentaires s'installent donc, et c'est ainsi que commencent les troubles du comportement alimentaire. Véritables maladies qui peuvent entraîner des carences et mettre la vie en danger. Pour nous présenter ces troubles avec leurs causes, leurs symptômes, leurs conséquences et leurs traitements, j'ai invité Madame Laetitia Legendre, médecin généraliste au centre Jouvence Nutrition à Messigny-Ventoux en Côte d'Or. Docteur Legendre, quels peuvent être les éléments déclencheurs de ces troubles du comportement alimentaire ?
Bonjour, on retrouve les troubles du comportement alimentaire chez certaines populations qui sont plus à risque, notamment les femmes, les mannequins, les sportifs, notamment ceux qui sont de niveau compétition, particulièrement avec des catégories de poids, les personnes qui présentent des pathologies qui impliquent des régimes comme le diabète, la maladie cœliaque, sont aussi plus à risque de développer un trouble du comportement alimentaire. Au niveau des éléments déclencheurs des troubles, parfois on ne retrouve pas de cause, mais il peut y avoir des traumatismes dans le passé, également du harcèlement scolaire, et toutes les périodes de rupture de la vie, comme une rupture sentimentale, ou bien un déménagement, une entrée dans une école loin de la famille.
Et quels sont les troubles les plus fréquents ?
Les troubles les plus fréquents sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique.
Alors, si nous commençons par l'anorexie, est-ce que vous pouvez nous la définir plus précisément, nous expliquer ce que c'est que cette maladie ?
Oui, l'anorexie mentale, c'est une privation de nourriture qui est volontaire au départ et qui entraîne une impossibilité à maintenir un poids normal.
Et quelles sont les conséquences de cette maladie ?
Alors, les conséquences de la maladie sont extrêmement graves. Un tiers des personnes anorexiques vont développer une forme chronique de la maladie et 1 à 2 sur 10 personnes atteintes de cette pathologie va en mourir.
Alors justement pour cette anorexie, est-ce qu'il n'y a pas un usage aussi excessif de diurétiques, de laxatifs ?
Alors, il y a certaines personnes, effectivement, qui vont consommer des produits laxatifs ou bien des diurétiques, des drainants, des produits X ou Y dans l'intention de perdre du poids. Et cela peut entraîner des conséquences au niveau physique dramatiques, hein, des troubles digestifs, des problèmes au niveau sanguin.
Et ces causes qui peuvent être multiples, oui. On dit souvent qu'elle peut entraîner des idées suicidaires.
Tout à fait. Le suicide est une des causes principales des décès des personnes anorexiques.
Et quelle est la tranche d'âge la plus touchée par cette anorexie ?
Alors, l'anorexie mentale débute principalement à l'adolescence. On observe des formes plus tardives. À Jouvence Nutrition, nous avons des personnes très jeunes, hein, qui ont développé l'anorexie vers 12-13 ans ou un petit peu plus tard. Et notre moyenne d'âge au niveau des patients se situe autour de 30 ans.
30 ans. Et ce sont plus les hommes ou les femmes ?
Les femmes sont principalement touchées par l'anorexie mentale. 9 femmes pour un homme, plus précisément.
Alors, donc, nous avons vu les troubles de l'anorexie. Et qu'est-ce qui définit la boulimie ?
Alors, la boulimie, c'est une ingestion massive d'une quantité d'aliments au-delà d'une norme, sur un temps limité, avec une perte de contrôle. C'est surtout la perte de contrôle, hein, qui va définir la boulimie, et surtout la mise en place d'un comportement compensatoire pour éviter la prise de poids. Donc ça peut être de l'activité physique en excès, la prise de laxatifs, des vomissements.
Là aussi, pareil que pour l'anorexie, vomissements, laxatifs.
Tout à fait.
Vomissements provoqués, vomissements spontanés.
Alors ça peut être aussi des vomissements spontanés, parce que l'ingestion d'aliments est tellement importante qu'il y a un trop-plein au niveau de l'estomac, et que ce n'est pas tenable.
Et là, il n'y a pas moyen de se maîtriser.
Voilà, il y a une perte de contrôle, effectivement.
Alors là, justement, là aussi, il doit y avoir des conséquences physiques au niveau du corps.
Oui, donc il y a les complications des vomissements à proprement parler, avec des saignements digestifs, des problèmes dentaires, des troubles métaboliques, c'est-à-dire une baisse du taux de potassium dans l'organisme, qui peut entraîner la mort par arrêt cardiaque, également le suicide.
Et des suicides, est-ce que le boulimique, comme l'anorexique, est-ce qu'ils ont peur de parler de leur maladie ou est-ce qu'ils ont honte?
C'est des maladies dont on a honte. Il est très difficile d'en parler, en particulier pour la boulimie, parce que ça ne se voit pas forcément qu'on a un problème. Le poids est normal la plupart du temps. On ne se doute pas, hein. L'entourage a beaucoup de mal à se douter qu'il y a une grave maladie en cours.
Par en dessous, oui. Et là, l'âge des personnes aussi, c'est la même chose que pour l'anorexie?
La boulimie apparaît un petit peu plus tard dans la vie, vers 19-20 ans. Et c'est pareil, hein, à la clinique, on a des personnes, la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans, mais ça peut commencer beaucoup plus jeune.
Et là aussi, les femmes plus que les hommes?
Oui, tout à fait. Environ 6 femmes pour un homme sont concernées par la boulimie.
Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois Madame Laetitia Legendre, médecin généraliste au Centre Jouvence Nutrition, qui nous présente les différents troubles du comportement alimentaire. Alors nous avons vu l'anorexie, nous avons vu la boulimie. Il y a une autre maladie également qui s'appelle l'hyperphagie boulimique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'hyperphagie boulimique, c'est une prise importante, répétée et compulsive, c'est-à-dire qu'il y a une perte de contrôle de nourriture, mais là il n'y a pas de comportement compensatoire pour maintenir un poids normal. Et ça survient au moins, une fois par semaine pendant 3 mois pour qu'on puisse parler d'hyperphagie boulimique.
Et là il y a l'obésité qui s'installe alors ?
Très souvent, oui.
Et les conséquences de cette maladie sur la personne ?
Alors, il y a déjà les complications physiques avec les complications de l'obésité, beaucoup de troubles digestifs, et les complications psychiatriques avec un sentiment de dégoût de soi, des symptômes dépressifs, une grande souffrance.
Et là aussi, ce sont les hommes, les femmes plus
Alors, les femmes et les hommes sont autant concernés l'un que l'autre par cette maladie.
Alors, quand nous avons un enfant, un mari, un ado qui souffre de troubles du comportement alimentaire, quels sont les signes qui peuvent nous alerter ?
Des fluctuations de poids peuvent vous interpeller, mais aussi une préoccupation excessive pour le poids, pour la nourriture.
Et puis, alors, quelle attitude faut-il avoir, justement, pour aider ce malade ?
Il faut avant tout dialoguer. Dans une optique bienveillante, ne pas être jugeant, tâcher de faire comprendre qu'on est inquiet pour la personne et l'orienter vers un professionnel de santé si c'est possible.
Est-ce qu'on peut en discuter avec lui ? Est-ce que c'est facile d'en discuter avec ce genre de malade ?
Alors c'est pas toujours évident, parce qu'effectivement il y a en particulier la boulimie, comme ça ne se voit pas, qu'il y a une grande onde associée à la boulimie, les personnes peuvent nier ou se sentir indigne de parler de ça, avoir l'impression de ne pas mériter d'aller mieux. Donc c'est très compliqué, il faut être patient.
Oui. Et justement, est-ce qu'il existe des traitements et quels peuvent être ces traitements ?
Oui, bien sûr. Au niveau des traitements, il est recommandé d'avoir des prises en charge pluridisciplinaires, avec, ça peut être le médecin généraliste, un suivi psychologique, un travail, bien sûr, au niveau diététique, et puis des soins autour du corps, pour se réapproprier une bonne image de soi, une image aussi qui est cohérente avec la réalité. Parce que très souvent, il y a ce qu'on appelle les dysmorphoesthésies, particulièrement dans l'anorexie, la boulimie, où on a l'impression d'être difforme, d'être trop gros, alors que ce n'est pas vrai.
Oui, et puis on peut être stigmatisé, justement, parce qu'on est gros.
Oui, au niveau de l'obésité, il y a une énorme stigmatisation qui existe encore plus pour les malades psychiques.
Alors donc, d'après ce que vous avez dit, il faut d'abord consulter un médecin généraliste qui établira un diagnostic et qui orientera vers des intervenants spécialisés, mais certains cas peuvent se révéler être si graves qu'ils doivent nécessiter une hospitalisation. Vous exercez dans un établissement qui peut les accueillir. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce que je crois que c'est le seul établissement en Côte d'Or qui peut accueillir ces malades.
Oui, alors d'autres services peuvent prendre en charge les patients atteints de troubles du comportement alimentaire, mais la clinique où je travaille est vraiment spécialisée dans ce domaine. Nous accueillons des personnes majeures qui présentent tout type de troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas forcément ceux que nous venons de présenter. Nous demandons que ces patients soient stables au niveau psychiatrique et qu'il n'y ait pas d'addiction non traitée.
Alors, je pense que vous accueillez en hôpital de jour et en hospitalisation complète.
Oui. Pour les patients les plus graves, nous proposons donc de l'hospitalisation complète avec des soins principalement en rendez-vous individuel. Et une fois que la situation va mieux, ou alors quand l'objectif, c'est aussi de pouvoir maintenir une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale, nous proposons l'hôpital de jour.
Et quelles sont les activités qui sont proposées aux patients?
Alors, nous proposons un accompagnement au niveau somatique, donc avec des consultations par des médecins généralistes, un accompagnement diététique qui est assuré par nos diététiciennes qui sont toutes bien sûr sensibilisées aux troubles du comportement alimentaire et formées dans le domaine. Nous avons un accompagnement psychologique avec des psychologues. Nous proposons aussi tout un travail autour du corps avec une psychomotricienne et un moniteur d'activité physique adaptée. Il y a également de la sophrologie. Nous proposons aussi du théâtre, de la composition florale. Voilà, les activités sont très variées.
Et quels sont les critères d'admission pour un malade pour entrer dans votre centre?
Pour l'hospitalisation complète, nous demandons que l'indice de masse corporelle soit supérieur à 13 kg par mètre carré, qu'il n'y ait pas d'addiction non traitée. On peut prendre en charge des personnes qui présentent des addictions à l'alcool, au tabac ou à d'autres substances. Il faut qu'il soit traité. Que la personne soit stable au niveau psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'idée suicidaire trop importante. Que s'il y a une pathologie psychiatrique comme la schizophrénie, celle-ci soit traitée et stable.
Alors l'émission arrive déjà à son terme. Je vous remercie, docteur Legendre, de nous avoir bien fait comprendre la gravité de ces troubles du comportement alimentaire, troubles qu'il est essentiel de bien prendre en compte, car ils sont la représentation d'une grande souffrance, comme vous nous l'avez dit. Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant le centre de nutrition Jouvence, je vous communique le numéro de téléphone. C'est le 03 80 60 02 50. Sinon, vous pouvez vous rendre sur son site inicea.fr, inicea.fr ou clinique Jouvence Nutrition. Je vous remercie, Madame Legendre.
Merci beaucoup.